Je vous invite à chercher 1 Corinthiens, chapitre 12. Et je fais la lecture jusqu'au verset 27. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles. Un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus grand honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà, donc lors de cette rentrée dans notre église, vous avez vu, nous mettons en avant cette idée, cette vision, chaque membre un ministre, chaque membre un ministère. C'est la conception de l'église que Paul présente ici dans notre texte, notamment avec l'image du corps, où chaque membre dans le corps a un don, a une fonction, a une place. Alors nous allons parler des dons sur ces quelques semaines qui vont venir. Parler des dons, c'est un terrain miné, je le reconnais, parce que je vais vous dire, on va essayer de vous dire ce dimanche et les dimanches suivants, que vous avez chacun un don. Vous avez chacun peut-être des dons. C'est-à-dire, autrement, je vais essayer de vous convaincre que vous êtes tous doués. Vous êtes doués. Mais j'aimerais vous rappeler, avant de procéder, que l'église la plus douée du Nouveau Testament, cette église à Corinthe, c'était aussi l'église la plus immaturée et avec l'église avec le plus de problèmes. Et je crois qu'il y a un lien entre tout ça, parce qu'en parlant des dons, on peut facilement mettre l'accent là où la Bible ne met pas l'accent, c'est-à-dire sur nous-mêmes, et ce n'est pas le but. Mais Paul en parle régulièrement dans ses épîtres, à plusieurs reprises, des dons, et nous croyons que c'est utile pour le bon fonctionnement de notre Église. Donc il est profitable de revoir le sujet, mais ceci avec cet avertissement, que voilà, l'idée c'est pas mettre le sujet sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui agit en nous. Donc en réfléchissant à cette question des dons et des ministères dans ce chapitre, il faut garder plusieurs choses en tête, trois choses que je vous propose ce matin. Les dons, ils sont spirituels. Ensuite, les dons, ils sont corporels. Et enfin, les dons ne sont pas une échelle au ciel, d'accord? C'est ce que nous allons voir ce matin. Les dons sont spirituels, les dons sont corporels et les dons ne sont pas une échelle au ciel. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc c'est mon premier point ce matin, les dons sont spirituels, c'est une affaire spirituelle. C'est-à-dire, c'est la première chose à savoir concernant ces dons, ces ministres dont on parle, ils sont spirituels. Donc maintenant, la première question à régler, c'est quoi d'être spirituel? Qu'est-ce que c'est d'être spirituel? Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un, toi, t'es spirituel? Ou toi, t'es pas spirituel? Je pense qu'il nous arrive peut-être de classer les gens autour de nous entre ceux qui sont moins spirituels, peu spirituels, et d'autres qui sont très spirituels. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on les classe? Dans la plupart des religions païennes, on associe justement un grand niveau de spiritualité avec tout ce qui est peut-être transe ou extase ou expérience mystique. La grande erreur des Corinthiens, influencés par la société païenne autour d'eux, c'est encore repris dans certains milieux, me semble-t-il, c'est l'erreur qu'il veut corriger, notamment ici chez les Corinthiens, c'est qu'ils avaient cette idée que plus on parle en langue, plus on est spirituel. Et Paul va dire, c'est pas vraiment ça. Mais nous tous, tous les milieux, ont leur manière de classer des gens spirituels ou pas. Par exemple, bon, quelques exemples, vous allez voir, vous allez me dire, oui, c'est peut-être pas bien de faire comme ça. On pourrait dire, plus on s'assoit devant dans l'église, plus on est spirituel. Bon, peut-être pas. Ok, on va essayer un autre. Plus, quand on prie, plus la prière est longue et éloquente, plus on est spirituel. On pourrait dire, je crois faux, plus on se trouve derrière le pupitre, plus on est spirituel. Curieusement, c'est beaucoup plus rare de trouver des gens, ce serait tout aussi faux, mais c'est quand même beaucoup plus rare de trouver des gens, plus on fait le ménage, plus on est spirituel. C'est tout aussi faux, mais c'est plus rare comme erreur, curieusement. Alors on dit, ok, le spirituel c'est quoi? Mais ce chapitre va nous aider, on pourrait dire, spirituel c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Oui, spirituel, Saint-Esprit, ça va ensemble. On est d'accord? Mais comment reconnaître la présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit? Et Paul va nous aider dans les premiers versets, avant même de parler des dons et tout ça, il va donner un critère de base dans versets 1, 2 et 3 pour savoir, en ce qui concerne ces dons spirituels, il ne faut pas être dans l'ignorance. Et le critère fondamental dans tout ça, on le trouve notamment en verset 3, c'est ça d'être spirituel, c'est d'affirmer et de vivre cette vérité que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, vivre et affirmer cette vérité, Jésus est le Seigneur de la vie, selon Paul, c'est ça, être spirituel. C'est là où on voit que le Saint-Esprit a l'œuvre dans une vie, quand toute la vie dégage cette réalité, oui, Jésus est vraiment Seigneur, il est le roi de ma vie, et non plus les idoles muettes de ce monde. Il dit, avant c'était ça. Le maître, le Seigneur de votre vie, c'est les idoles du monde. Maintenant, le Saint-Esprit, par sa puissance, a opéré une conversion, une transformation. Maintenant, Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie. Et le chrétien, c'est ça être spirituel, quand il vit, quand il affirme, quand toute sa participation dans la vie d'Église et tout autour de sa vie manifeste, dégage cette vérité, Christ est Seigneur. Et la bonne nouvelle, quand on définit la spiritualité ainsi, la bonne nouvelle, c'est que chaque don, chaque ministère, chaque rôle, que ça soit grand ou petit, que ça soit ostensible ou caché, que ça relève un peu plus du puissance miracle ou moins, eh bien chaque don peut être spirituel maintenant que vous connaissez la définition du spirituel. Ce qui est vraiment spirituel, ce n'est pas forcément du miracle, du magique, du mystique. Ce qui est spirituel, c'est quand mes actes et mes paroles affirment que Jésus est Seigneur de ma vie. Et il est Seigneur de toute ma vie. Mes capacités, mes dons, mes talents, mon temps, il est Seigneur de tout ça et je l'offre à l'Église. Donc dans ce cas-là, tout peut être spirituel. Si c'est ça le message qui est véhiculé par notre vie chrétienne. Et je crois que quand on regarde le contexte de tout le Nouveau Testament, la définition d'un don spirituel est très large. Diversité, il dit ici. On trouve par-ci par-là des listes, mais je crois que ces listes sont souvent des échantillons des dons, parfois des catégories des dons. Et puis, donc, c'est très vaste la définition du don. Dans ce même chapitre, Paul va dire que et le mariage et le célibat sont des dons du Seigneur envers ses enfants. Tout dépend bien sûr comment on vit son célibat et comment on vit son mariage, mais tous les deux peuvent être des atouts pour servir Dieu. Donc, un don. J'ai envie de définir un don spirituel ainsi, c'est-à-dire que c'est une aptitude, un atout naturel qui est soumis au Seigneur, qui est vivifié par l'Esprit et qui sert toute l'Église. Et dans ce cas-là, tout peut être spirituel, mais il faut au préalable que ces aptitudes, ces atouts soient convertis, soumis au Seigneur pour agir dans l'Église. Un exemple où c'est assez facile à voir, on peut être très doué en musique et être complètement idolâtre, païen et mondain. Donc ce n'est pas en soi un don spirituel. Mais nous croyons qu'un don naturel, une capacité naturelle, peut être racheté, vivifié, transmis, pour devenir un don qui sert vraiment les frères et les sœurs. Or, écoutez bien, il me semble qu'il y a une manière de pratiquer un don dans l'Église qui trahit que ce n'est pas Jésus qui est vraiment le Seigneur de notre vie. Il y a une manière de pratiquer les dons qui trahit que ce n'est pas vraiment Christ qui est Seigneur. Par exemple, si on vit tout ça, si on sert, si on pratique un don pour attirer l'attention sur soi, c'est une manière d'être entraîné, d'être conduit par, pas le Seigneur, mais un autre pouvoir, une autre influence dans notre vie, notamment l'idole de la gloire des hommes ou la réputation. Et dans ce cas-là, on est toujours en train de suivre ces idoles du monde. Donc, tout doit être converti au Seigneur. Je prends un exemple de l'Ancien Testament pour vous montrer un peu comment ça peut marcher. Ce n'est pas dans le cadre des dons spirituels, mais juste pour illustrer ce principe. Je vais parler d'abord d'un prince et puis d'une princesse qui tous les deux, on va dire, avaient le même, je vais dire, don. Le prince, il s'agit d'Absalom, c'est le fils de David, et le Seigneur Dieu l'a doté, il faut le dire, d'une beauté impeccable. Le verset dit que de la plante de ses pieds au sommet de sa tête, aucun défaut, c'était le plus bel homme de tout le pays. Qu'est-ce qu'il a fait de sa beauté? Eh bien, il l'a utilisé pour attirer l'attention sur lui, pour diviser le pays, pour lancer une rébellion. Peut-être c'était parce qu'il manquait d'affection de la part de son père, mais cette beauté est devenue sa perte et la perte de ceux autour de lui. Dommage, parce que même ça, on pourrait dire, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Maintenant, je vais parler d'une princesse, qui aussi était la plus belle de son époque, qui a gagné le concours de beauté de son époque, c'était Miss Perse. Je parle d'Esther, donc une beauté exceptionnelle, ça vient de Dieu, tout ça. Sa beauté a été en quelque sorte, elle a pu servir à cause de sa beauté, il faut le dire, elle a pu servir et les autres, sauver son peuple, mais pour elle c'était sacrifice, c'est quelque chose qu'elle a dû soumettre au Seigneur et suivre lui, mais sa beauté a sauvé les autres, alors que Absalom, sa beauté a détruit les autres et il s'est détruit. Et l'ironie de l'histoire, c'est que même ses cheveux, ses beaux cheveux, c'était ce qui l'a tué. Et c'est comme... Donc, je ne suis pas en train de dire que la beauté physique, c'est un don spirituel à aspirer et rechercher dans l'Église. Mais c'est pour vous montrer la différence entre ce qui peut être spirituel et plaire au Seigneur, et ce qui peut être tout le contraire, avec la même chose, le même don, en quelque sorte. Et c'est pour ça que chaque fois que Paul parle des dons, c'est intéressant, il rappelle toujours un critère de base, c'est que d'abord, toute notre vie doit être livrée au Seigneur. En Romains 12, on aurait pu prendre le texte de Romains 12 pour notre message ce matin, parce qu'il dit la même chose par rapport aux dons, que chacun a un don, que le corps, chacun trouve sa place dans le corps. Ça, c'est Romains 12. Mais juste avant de parler des dons, vous connaissez ce verset, premier verset de Romains 12, où il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est agréable à Dieu, et c'est ça votre culte raisonnable, votre culte spirituel. » C'est ça être spirituel, c'est d'abord offrir tout ce que nous sommes comme un sacrifice vivant à Dieu. Ce qui nous protège de pratiquer les dons d'une manière qui finalement c'est soi-même qui est Seigneur, ou c'est la recherche de réputation, la recherche de pouvoir, la recherche d'argent qui deviennent finalement le maître principe de notre vie. Quelqu'un qui n'est pas dans cette disposition de Romains 12 verset 1 ou cette disposition de 1 Corinthiens 12, 3, Christ est le Seigneur de ma vie, eh bien il peut faire ce qu'il veut dans l'église, il peut être très doué, c'est pas spirituel. Voilà. Maintenant, donc ça c'est la première chose à garder en principe, comment définir spirituel? Et on a peut-être revu notre définition de spirituel dans ces premiers versets, c'est quand Christ est Seigneur de toute notre vie, et que ça se voit dans la manière qu'on vit. Après, les dons non seulement sont spirituels, mais ils sont corporels, et Paul va bien décrire ça dans les versets qui suivent. C'est une affaire corporelle, c'est-à-dire avec l'image du corps qui domine tout notre texte. Cette image, c'est assez rare que Paul exploite une image de manière si développée, si longue. Mais voilà, on a cette image qui est exploitée de longue et en large. Alors je vais juste mentionner quelques évidences, je crois, et puis on passera au point suivant qui risque d'être un peu moins évident. Bon, quand on pense au corps et dans ces versets, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, tout d'abord, c'est que chaque membre est utile et indispensable. C'est les versets 12 à 14. Chaque membre est utile et indispensable. Regardez votre corps. Quel membre aimeriez-vous amputer? Quel organe voulez-vous en priver? Voulez-vous en être privé? Je comprends certaines circonstances médicales, mais personne se réjouit d'amputer un membre. En général, on est bien quand chaque organe est à sa place, chaque membre est bien là, c'est ce qu'on préfère. Et c'est l'évidence d'une corps, chaque membre est là pour une raison, et c'est la réalité d'une église, chaque membre est indispensable, chaque membre est utile. Et l'utilité n'est pas une fonction de la taille du membre, de sa couleur, de sa visibilité, de sa maturité. On aime bien chaque organe, chaque membre, petit et grand, visible, invisible. On est content qu'ils soient là, hein, même chacun à sa place. Et ça, c'est ce que Dieu offre à notre Église et à tout chrétien. Je sais que dans le monde, parfois, vous faites une formation, après vous passez un concours, mais après, il n'y a pas de poste. Mince. Dans l'Église de Jésus-Christ, ça, vous n'allez jamais rencontrer. Il n'y a pas de chrétien chômeur, il n'y a pas de... Chacun a une place garantie, parce que c'est Dieu qui le garantit, c'est Dieu qui le fait sur mesure pour chacun de nous. Chaque membre est utile et indispensable. Deuxième évidence, aucun membre n'a tous les dons. Ça, c'est versets 15 à 19. Aucun membre n'a tous les dons. Disons-le franchement, le pied, il est nul en odorat. Heureusement d'ailleurs. Alors mettons-nous tous d'accord. Nous sommes tous nuls dans certains domaines. Aucun de nous n'a tous les dents. Ça devrait être une bonne nouvelle pour chacun de nous. Savoir qu'aucun de nous n'a tous les dents. Donc on a besoin des uns des autres et chacun à sa place. Évidence suivante, c'est qu'aucun membre ne peut se priver des autres membres. Ça c'est verset 21, il le dit carrément. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. aucun membre ne peut se priver des autres membres. Et même, il y a de nombreuses activités du corps qui nécessitent plusieurs membres coordonnés à la fois. Marcher, ce n'est pas juste une affaire des jambes. Évangéliser, ce n'est pas juste une affaire des évangélistes. Prêcher, ce n'est pas juste une affaire des prédicateurs. C'est une affaire de tous. Chacun à sa place. Il dit, chaque don, c'est pour l'utilité commune. Donc, chaque pratique d'un don, ce n'est pas juste pour s'amuser, c'est pour l'utiliser, pour faire fonctionner tout le corps. Les jambes ne s'amusent pas à marcher juste pour marcher, c'est pour rendre tout le reste du corps quelque part, pour que tout le reste du corps peut faire quelque chose aussi. Dans ce cas-là, par exemple, que penser de quelqu'un qui dit « Moi j'ai un don, mais je le pratique tout seul dans ma chambre. » Quelque part, vous pouvez dire « c'est bien, mais c'est impossible que ça soit un don spirituel tel que la Bible les envisage. » Le propre d'un don spirituel, dans ce cas, c'est pour l'utilité commune, c'est dans le cadre du corps. Quelqu'un dit « J'ai un don de générosité et de service, mais je le pratique tout seul envers moi dans ma chambre. » Vous dites « Oui, d'accord, mais... » Donc, ça, c'est quelques évidences du corps. J'aime bien l'image, vous le connaissez bien. Notre Église est un corps et il me semble que c'est une particularité de l'Évangile, de la foi chrétienne, de décrire les communautés ainsi, mais donnant une place importante à chacun. Les autres religions, on divise entre clergé et puis laïc, et le clergé fait tout et le reste sont spectateurs. Ce n'est pas du tout la conception de la Bible. Donc, on a vu les dons, il faut que ça soit spirituel. On connaît maintenant ce que c'est d'être spirituel. Il faut que ça soit corporel, le corps. Et maintenant, cette réalité, je pense qu'elle est moins évidente à vivre, c'est que les dons spirituels, ce ne sont pas une échelle au ciel. Et c'est là difficile pour nous, parce que dans tous les domaines du monde, dans tous les domaines du monde, il y a les doués, il y a les nuls. Et le tout, c'est de faire partie des doués. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Mais pour faire partie des doués, on se permet pas mal de choses, notamment se jalouser, se concurrencer, se mentir, se faire pistonner, se doper, s'il faut, s'enorgueillir. Tous ces comportements, c'est motivé par ce désir de faire partie des doués et de ne pas faire partie des nuls. Et ça, c'est le quotidien de notre vie partout. Et la réflexion humaine, c'est, dans tout domaine, c'est se placer sur une échelle et on préfère être plutôt vers le haut de l'échelle. Et c'est ô combien difficile de quitter cette manière de penser quand on vient dans l'Église de Jésus-Christ et quand on pense aux dons spirituels. Mais il faut la quitter. C'est tout le but de ces 12, 13, 14, 1 Corinthiens, ces chapitres. Paul veut aider les Corinthiens à quitter ce schéma de réflexion. Et on a une petite aide dans notre texte, notamment dans les versets 22 à 25, où il parle des membres avec moins d'honneur, des membres plus faibles, comme étant ceux qui, finalement, ont beaucoup d'honneur. Et en fait, là, et Paul s'inspire de cette réalité du corps humain, que les membres les moins visibles sont les plus importants. Je ne sais pas s'il a en tête des organes qui sont cachés sous les côtes et tout ça, ou s'il a en tête les parties privées de notre corps qu'on entoure avec des vêtements, tout ça. Mais en tout cas, les membres les moins importants de notre corps, on les soigne avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire on va les entourer avec plus de soins, plus d'attention, plus de vêtements, et ainsi ça montre qu'ils sont en fait très honorables. Donc quand on commence à réfléchir à l'Église et les dons, les différentes sortes de dons, tout ça, c'est ça qui nous garde, qui nous protège de dire, comme tout le monde dans le monde dit, ça nous garde cette réflexion de dire plus c'est fort, plus c'est riche, plus c'est grand, plus c'est ostensible, plus c'est puissant, mieux c'est. Est-ce que c'est vrai ça? Plus c'est grand, plus c'est riche, plus c'est fort, plus c'est doué, plus c'est ostensible, mieux c'est. Non, c'est pas vrai. C'est ni vrai dans le corps humain, et c'est pas vrai dans le corps de Christ, et surtout, Ce n'était pas vrai dans la crèche de Bethléem et ce n'était pas vrai à la croix de Golgotha. Le Dieu qui a apparu le plus faible, le moins décent, eh ben, c'est le Dieu le plus honorable, le plus grand, le plus puissant, le plus vrai, le plus digne de louange. Vous voyez, c'est ça la croix ici. Finalement, c'est la croix qui ressort. Et Paul va dire tout au long de cette épître ici aussi que le chemin de la croix, c'est aussi le chemin pour l'Église et le chemin pour la pratique des dons spirituels. Les plus grands dons, les plus grands services sont ceux qui se passent par le renoncement et le sacrifice et l'humilité. Ça veut dire que dans l'Église, on prend cette échelle, cette fameuse échelle, et on le retourne et on le met dans l'autre sens. Et les plus grands, c'est ceux qui descendent, qui choisissent les passes les plus humbles. Dans l'Église, on retourne l'échelle. Et je sais, c'est le travail de toute une vie, je pense, le travail de toute une vie, d'adopter l'attitude qui vient de la croix. Ici, il va essayer d'aider les Corinthiens à comprendre qu'ils avaient tout faux. Ils avaient rebasculé dans le schéma du monde. Parce que de leurs dons, de leur manifestation des dons, ils en ont fait une échelle de spiritualité, une échelle au ciel. Et notamment, plus le don était spectaculaire, ostensible, mieux c'était, plus on était spirituel. Et Paul dit non, c'est Jésus, c'était pas comme ça. Parce que la bonne nouvelle de la Bible, finalement, c'est pas de dire à quelqu'un t'es doué. La bonne nouvelle de la Bible, c'est de dire à quelqu'un t'es nul. Mais Dieu t'aime et il est prêt à échanger de place avec toi. Il te met toi au ciel, il prend ta place de raté, de perdu, de pécheur. Donc c'est vrai, j'ai commencé mon message en disant vous êtes tous très doués. Je termine en disant vous êtes tous nuls. Nous sommes nuls. Le mot de la Bible, c'est encore plus fort. Nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas bien, nous sommes mal. Mais ça, ça nous libère, ça nous met tous en bas de l'échelle. Table rase avec tout le monde. Et là, on peut reconstruire autrement. On abandonne l'échelle et c'est la grâce pour tous, chacun avec un don différent. Mais c'est la même grâce, le même Seigneur, la même bonté. D'ailleurs, un jour, Jésus a dit, plus ou moins dans ses mots, il a dit, l'échelle, c'est moi. Vous, avec vos efforts, tout ça, ça, c'est pas cher. Moi, je suis l'échelle. Ce qu'il avait dit en faisant appel, référence à cette échelle de Jacob, il dit, c'est moi l'échelle pour monter au ciel. Et avec moi, ça monte facilement. Et une fois que nous avons compris que c'est lui l'échelle au ciel, eh bien, on peut recevoir des dons de Dieu. Et c'est fini toute cette concurrence, cette comparaison, cette moi je suis plus spirituel que toi. Si on est tous sur cette échelle de Jésus-Christ qui monte au ciel, on est spirituel, on a le Saint-Esprit. C'est ça, être baptisé par le Saint-Esprit, c'est avoir compris le salut, avoir reçu le Saint-Esprit dans sa vie, faire partie de la famille de Dieu. Et ça, ce moment arrive quand on saisit Christ comme l'échelle et pas tout le reste. Et là, ça fait que quand on a compris ça, on est animé d'un autre esprit. C'est le Saint-Esprit, là, il se manifeste en nous et dans notre Église. Quand on vit cette nouveauté. Bien sûr, la solution n'est pas une fausse humilité à dire « Oh, moi, je ne sais rien faire, moi, je suis nul, moi, j'ose pas me mettre en avant. » Ça, c'est la fausse humilité. Et je termine avec une illustration que j'ai trouvée chez Martin Luther. Alors, Martin Luther, toujours un peu rigolo, finalement, il imagine une conversation entre le soleil et un pommier, supposant que les deux étaient membres de la même église. Et il dit, le soleil ne dit pas, ou ne devrait pas dire au pommier, vous savez, moi je ne suis pas très brillant, je suis quelqu'un de fade, discret. Et le pommier, lui, il ne dit pas, il ne devrait pas dire, oh, vous savez, moi, je ne porte pas de fruits dans ma vie. Il dit non. Par contre, le soleil ne doit pas dire non plus « Ah, le jaune doré resplendissant, c'est beaucoup mieux que la verdure. Non, il dit le soleil doit dire au pommier, toi, d'accord, tu brilles pas, mais je te méprise pas, et puisque tu es vert, je méprise pas ta verdure, au contraire, je vais t'aider à être vert. Et c'est comme ça que se passe, hein, le soleil éclaire, et le pommier reçoit le soleil, et puis porte du fruit, et ça c'est l'Église. Voilà, je ne sais pas si vous êtes plutôt soleil, plutôt pommier, plutôt autre, mais ensemble, Dieu a donné à chacun. On ne se méprise pas les dons entre nous, on les vit, on les met aux dispositions des seigneurs et l'Église avance. Nous terminons dans la prière. Seigneur, nous avons parlé des dons, peut-être même avant ça, il faut savoir si vraiment nous faisons partie de ta famille. Le don, c'est un plus, une grâce de plus, mais la grâce de base, l'œuvre de base, c'est quand tu nous adoptes dans ta famille, quand tu nous convertis, tu nous sors de ce monde païen et tu nous délivres des idoles païennes pour devenir notre Seigneur. C'est ça, rejoindre le corps de Christ, c'est ça, devenir enfant de Dieu. Et je te prie que voilà, ce soit la réalité pour chacun ici. Et maintenant, une fois membre de ton corps, nous te prions que nous puissions nous réjouir de la place, du don, du ministère que tu nous accordes, pas passer la plupart de notre vie, de notre temps à rêver d'être quelqu'un d'autre, à convoiter d'autres choses, non, mais de se contenter de ta sagesse, de ta bonté, de ta diversité, la manière que tu l'as mise en place dans l'Église. Je te remets particulièrement notre Église dans cette rentrée, le BTM. Je te prie pour chacun ici, qu'ils puissent trouver cet épanouissement, cette joie de non seulement recevoir plein de choses, mais de donner et de servir les autres. Je te le prie au nom de Jésus-Christ. Amen.